La France bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure de découvrir la solution du jour, Raphaël, avec Maud Descamps.
Et oui, vous faites peut-être partie de ces nombreux Français qui font leurs achats en ligne, qui se rendent ensuite dans des points relais pour récupérer le colis. L'année dernière, il y en a eu 1,5 milliard de commandes passées comme ça en France. Alors comment faire quand on habite à la campagne et que le premier point colis se trouve à 10, 20, voire 30 kilomètres? Eh bien Maud, vous avez la solution et elle s'appelle Agricolis.
Et oui, plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller récupérer votre colis. Il suffit de se rendre dans la ferme à côté de chez soi. Ça s'appelle donc Agricolis et ça, des agriculteurs qui, en plus de leur activité, eh bien, sont également devenus des points de retrait pour les plateformes de commandes en ligne. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet, Cédric Guyot. Bonjour.
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 Cette idée, vous l'avez eue il y a un petit peu plus de 2 ans, c'est ça?
On l'a eue donc avec mon associé Guillaume. On s'est rendu compte que la distribution de produits lourds, ça engendrait vraiment des complications. On est obligé soit de faire 30 km comme vous l'avez dit, soit d'accepter une livraison en journée par un transporteur qui coûte beaucoup plus cher. Donc l'idée de prendre un jour de congé pour attendre son colis, c'est un peu dur.
Donc l'idée, c'est de demander à des agriculteurs qui ont de la place, c'est ça le principe?
On s'est rendu compte en fait qu'il y avait plus de 200 000 exploitations agricoles en France et que le plus souvent, ils rendaient ce service gratuitement en le faisant pour leurs voisins. Est-ce que je peux faire déposer mon colis chez moi? On s'est dit comment on pourrait faire pour que ces agriculteurs qui ont du temps, donc généralement le soir, qui ont des espaces de stockage, puissent bénéficier de ces services et de proposer la solution de points de retrait dans leur ferme.
Du coup, ça leur fait un complément de revenu.
Oui, donc c'est triplement gagnant. C'est gagnant pour l'agriculteur qui, lui, a un revenu complémentaire en faisant cette activité. Il a aussi la possibilité de promouvoir ses produits s'il a un petit magasin à la ferme. C'est gagnant aussi pour le consommateur qui, lui, a de nouveau une solution de proximité, quel que soit son lieu d'habitation. En plus, avec une solution qui coûte moins cher. Et enfin, pour l'e-commerçant, c'est de proposer ce service partout sur toute la France.
Alors quand on parle de complément de revenus, ça veut dire que ça rapporte combien à un agriculteur?
En moyenne, on peut estimer à plus de 400 euros par ferme relais. D'accord. Donc c'est assez significatif.
Surtout quand on connaît le revenu moyen d'un
Exactement.
Agriculteur.
Pour une activité où il réceptionne entre 1 et 3 fois par semaine, donc c'est un créneau de 2 heures, et après ouvrir la ferme le soir en fin d'après-midi, donc après leur travail dans la ferme.
400 euros par semaine?
Par mois.
Par mois.
400
D'accord.
euros par mois.
Alors justement, vous parlez d'ouvrir la ferme. L'idée aussi derrière Agricolis, c'est de recréer un lien aussi entre les agriculteurs et les consommateurs.
Il y a quelques décennies, on avait tendance à dire que l'agriculteur était au centre du village. On allait l'aider, on allait travailler avec lui. Aujourd'hui, on ne connaît plus son voisin. On vit à la campagne, on travaille à la ville. Et en fait, on n'a plus la chance de rencontrer ces agriculteurs qui ont ce besoin d'échanger sur leur métier, qui ont besoin de s'ouvrir, qui voient quelquefois pas grand monde dans la journée. Donc c'est l'occasion aussi pour eux de partager leur expérience.
Eric, notre coach.
Ça va tuer l'amour est dans les prés, ça. Ça va faire des histoires directes. Non, c'est bon.
À mon avis, il y a de quoi faire.
Non, je plaisante. Je trouve l'idée très très bonne. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus, vous avez commencé avec ces discounts. Donc, en fait, c'est deux Français qui innovent dans la logique sur le territoire. Et je trouve vraiment l'idée non seulement très bonne, je pense que c'est la bonne cible, c'est le bon endroit. J'aime beaucoup la façon dont tu as commencé à la faire. Tu peux nous en parler un peu? J'ai vu ta map tout à l'heure, vous avez commencé à choisir des gens.
En fait, tout se passe déjà, donc grâce à des émissions comme la vôtre, on se fait connaître. Les agriculteurs, on ne fait pas de démarchage, ils viennent à nous pour l'idée. Après, on les contacte, on leur explique un peu comment ça fonctionne et on audite forcément l'agriculteur. Pour se rencontrer, bien sûr qu'il a un espace de stockage, qu'il a bien un moyen de manutention, mais surtout, on vient chercher le sourire. L'idée, c'est que le consommateur, quand il arrive dans la ferme, j'ai fait une nouvelle rencontre et j'ai eu plaisir à rentrer dans la ferme et comprendre le métier. Donc l'idée, c'est on crée du lien. On a tendance à dire que nous, on est générateur de bonjour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet aux citoyens d'aller voir leurs voisins qui n'auraient pas tendance c'est compliqué d'aller le voir.
Sans rien faire, il en a 650 déjà. Ils en ont validé combien?
On en a validé. Donc on a aujourd'hui 60 fermes actives en France. L'objectif, c'est d'en monter une centaine d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine, d'en lancer 200 de plus. Donc l'idée vraiment, c'est de fédérer, de faire une vraie communauté d'agriculteurs et leur permettre de partager leur expérience et leur métier.
qu'est-ce qu'on vient déposer ? Quels sont ces paquets qu'on laisse chez l'agriculteur ?
Alors, pour ces discounts, c'est surtout d'électroménager, donc une machine à laver, une tondeuse, un frigo. Mais demain, ça pourrait être tous des produits dans le bricolage, des produits aussi dans le sport, où vous achetez, je ne sais pas, un rameur, par exemple. Tout ce qui
n'entre pas dans la boîte à lettres.
Exactement. Ou tout ce qui ne rentre pas chez le fleuriste, à côté de chez vous, où vous allez chercher les produits. Donc, ça va être tous les produits au-delà de 30 kilos ou volumineux.
Mode. Qu'est-ce qui les séduit, les agriculteurs ? C'est quoi ? C'est l'appât du gain ? C'est le fait de pouvoir
Alors,
gagner un peu plus d'argent ?
C'est d'avoir un revenu complémentaire, oui, bien sûr. Mais quand je parlais tout à l'heure d'échange, oui, ils cherchent aussi cet échange. Ils ont besoin de partager. Moi, j'en ai un dans les premiers à rencontrer qui m'a dit « Moi, je voudrais mon droit à la parole. » C'est quoi mon droit à la parole ? Bah, c'est de pouvoir permettre d'échanger avec mes voisins de mon activité. Qu'il y ait la possibilité d'échanger et de partager.
C'est une manière de rompre l'isolement aussi de l'agriculteur ?
Exactement. Et on a tout type d'agriculteurs, on a des personnes qui arrivent à la retraite et qui ont décidé de diminuer leur activité et qui souhaitent faire venir du monde. On a des jeunes qui reviennent à la ferme et se disent « bah ouais, mais revenir à la ferme, ça ne dégage pas forcément un revenu complémentaire, donc faisons d'activités on va dire, en plus ».
Éric parlait de la MAP tout à l'heure. Vous êtes à peu près partout aujourd'hui sur le territoire ?
On a quelques points un peu partout en France, à l'exception du Sud-Est. Mais l'objectif, c'est de mailler un maximum et d'avoir un point agricoli tous les 20 km.
Vous étiez deux au début, aujourd'hui vous êtes cinq, c'est ça ?
On est cinq, on va passer à six début d'année prochaine.
Oui, alors justement, c'est ma question, est-ce que vous avez des craintes un peu pour l'expansion ? Parce que là, il y a plus de 600 agriculteurs qui attendent.
Alors,
comment on fait pour gérer ça ?
En fait, on est en train de travailler sur une... Au départ, c'était nous, personnellement, l'équipe agricole qui allait auditer. Là, on est en train de mettre en place des ambassadeurs, c'est-à-dire des relais agriculteurs qui vont nous donner une ou deux journées par mois pour aller voir les autres relais qui ont postulé.
C'est plutôt fin et malin. Comment on fait pour scaler ? Parce que moi, je comprends bien. C'est très bien l'histoire des agriculteurs supplémentaires. J'entends 200 l'année prochaine. Je suis d'accord qu'il y a les 600. Comment on fait les 600 ? En tout cas, comment on écrème ?
Avec une vingtaine ou une trentaine d'ambassadeurs qui font 6 rencontres par mois.
Donc, il y a déjà tout le plan. Et donc, il faut des sous maintenant, non ?
Exactement. Il nous faut encore un petit peu d'argent, oui, bien sûr.
Et c'est quoi ?
L'idée, c'est d'aller au-delà de la France, donc taper aussi dans l'année prochaine, commencer au Benelux et après l'Espagne ou l'Allemagne. Je ne sais pas, on est en train de travailler sur le sujet, mais peut-être 1 million. On a déjà des partenaires qui sont déjà sur le coup pour continuer à nous aider.
Ça s'appelle Agricoli et c'est l'occasion de faire des rencontres à la ferme, avec les agriculteurs et aussi de venir récupérer votre colis dans ce nouveau point relais. Merci d'être venu nous en parler, Cédric.
Merci beaucoup.
Il est midi 57. Europe 1. Restez avec nous, 3921 Twitter. Rejoignez-nous sur Europe 1 en direct pour parler AVC, puisque c'est la journée mondiale aujourd'hui. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France qui bouge. Et ici, vous le savez, on pose un autre regard sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est d'AVC que nous allons parler ensemble. Il y en a un qui se produit toutes les 4 minutes. C'est de dire s'il est vital de savoir le détecter et aussi agir vite pour le prendre en charge. Et ça commence, figurez-vous, dès le plus jeune âge. Professeur Zuber, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service neurologie et neurovasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et alors, vous avez mis en place avec votre équipe des actions de formation auprès des élèves de CM2. Ce dispositif est baptisé AVC-M2. Racontez-moi, comment est venue cette idée ?
Eh bien, l'idée est d'abord venue qu'il fallait travailler plus sur la prévention. Parce que dans une maladie grave, où il faut aller très vite, il est important que tous les membres de la population soient mieux informés. Et s'adresser à une population jeune, c'est s'adresser à une population qui est capable de s'imprégner comme une éponge et de retenir. Et on a fait des premières formations à Saint-Joseph même, en recevant lors des portes ouvertes.
Donc en milieu hospitalier ?
Dans le milieu hospitalier, pour voir ce qui se passait lorsqu'on faisait des ateliers, lorsqu'on faisait parler les enfants autour d'une maladie, une fois qu'on leur avait présenté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses pertinentes qu'ils conservaient. Et à partir de là, on a voulu l'étendre et aller vers les écoles.
Qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur parlez d'AVC ? Est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'un AVC ?
Alors très mal, on leur fait d'abord un petit test pour savoir ce qu'ils savent. Et en fait, on se rend compte qu'ils ils répondent oui à des questions très simples dans environ 30% des cas. Pour chacune des questions, que ce soit les facteurs qui peuvent provoquer, les signes, qu'est-ce qu'il faut faire. Après les formations, c'est maintenant qu'ils sont à 90% et même 3 mois, 6 mois après. Donc, il y a vraiment un apport. Ce qu'on leur dit, c'est d'abord, on leur explique les signes. Et puis, ce qui nous paraît le plus important, c'est un vieux principe de pédagogie, c'est qu'ils vivent un peu les choses au travers d'un atelier, de plusieurs ateliers même.
Donc vous avez, en 2015, commencé à accueillir les classes en milieu hospitalier. Puis très vite, en 2016, vous vous dites, on va aller, nous, directement dans les écoles pour faire ces ateliers et mettre en place ce dispositif. Je suis élève de CM2. Vous arrivez, qu'est-ce que vous faites avec nous?
Alors d'abord, il a fallu passer par les directeurs d'école, évidemment.
Évidemment.
Les directeurs ont été très vite motivés, ceux qu'on a contactés. Et puis le docteur Marie Bruandet, qui pilote, qui est vraiment l'âme de ce projet dans mon service, s'est déplacé et a expliqué les choses auprès des enseignants. D'abord, il fallait évidemment qu'il y ait un environnement favorable. Et puis ensuite, eh bien, la construction de cette formation, c'est la présentation d'un certain nombre de choses très simples. Et ce qui a marché le plus, ça a été de faire travailler les enfants en atelier.
C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui joue le rôle du médecin, un autre qui est le patient, la victime, et puis une troisième personne qui est le témoin.
Alors oui, plus précisément, là vous parlez d'un des trois ateliers, c'est l'atelier mime. Il y a effectivement celui qui mime l'AVC, celui qui mime le témoin, qui va devoir réagir. Et puis il y a le troisième qui est le médecin du SAMU ou des pompiers au bout du fil. Et on peut même imaginer encore un autre témoin. Donc on le fait à trois ou quatre et les enfants apprennent leur rôle pour le jouer le mieux possible. Ça c'est l'atelier mime.
C'est vrai que c'est important, Maud, hein, de prendre en charge rapidement, parce que c'est ce qui va permettre, en fait, de limiter les séquelles.
C'est ça, le délai de prise en charge, hein, c'est ce qui va permettre, évidemment, de limiter les séquelles et de mieux se rétablir derrière. Je lisais en préparant l'émission eh bien, que lorsque le cerveau est privé d'oxygène, eh bien, ce sont 2 millions de neurones qui meurent chaque minute. Il faut donc agir très vite. Il y a d'ailleurs une phrase apparemment qui circule chez les médecins qui est « time is brain », c'est-à-dire « le temps, c'est du cerveau ». D'habitude, on dit « le temps, c'est de l'argent ». Là, c'est « le temps, c'est du cerveau ». Ça veut dire qu'il faut intervenir très vite. Et il y a justement un hôpital en Ile-de-France, l'hôpital à Suresnes, l'hôpital Foch, qui a lancé une application là, il y a quelques jours qui permet justement de d'écourter ce temps de prise en charge. C'est une application pour le corps médical et ça permet de suivre le patient lorsqu'il arrive à l'hôpital et ensuite de suivre sur sa prise en charge tout au long de son parcours.
D'où l'importance d'apprendre à reconnaître les signes, notamment pour les enfants.
Tout à fait. Autre atelier, ils se mettent à dessiner les signes de l'AVC. Une fois qu'ils les ont entendus, bien, faire un visage pour un enfant qui a la bouche tordue, pour représenter la paralysie faciale pour lui, eh bien, ça fait qu'il le retiendra. Et donc on les fait dessiner également. Et le troisième atelier, c'est un atelier très, très populaire, c'est d'entrer dans un camion de pompiers et de discuter avec les pompiers. Alors évidemment, ça, c'est souvent la première chose qu'ils racontent à leurs parents.
Oui,
et puis ensuite, voilà, et ensuite, ils racontent le reste.
Eric, notre coach.
Moi, je trouve ça juste génial. La seule chose, tout à l'heure, vous disiez qu'en France, le problème, c'est justement d'avoir tout ce côté prévention. Est-ce que vous faites un MOOC? Est-ce que vous proposez quelque chose qui pourrait être fait en vidéo un peu partout et qui, à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin que du pompier et pas forcément d'un professeur, du médecin aussi expérimenté que vous pour le faire autour de chez vous?
Oui, vous avez tout à fait raison. On travaille à ça. On est encore, c'est un projet, il a été développé sur la ville de Meudon en particulier, grâce à la mairie, il a été développé dans un certain nombre d'écoles autour de Saint-Joseph.
Une vingtaine d'écoles, hein,
un millier d'élèves sont passés dans ces mains de formation. Avec l'agence régionale de la santé d'Île-de-France, on cherche à vraiment le développer sur l'ensemble de l'Île-de-France. Et de cette expérience-là vont naître des outils plus permettant une diffusion plus large. Vous avez tout à fait raison, c'est l'étape suivante.
Il y a des villes qui vous ont contacté, je crois, Strasbourg,
oui, Strasbourg
qui est intéressée.
Strasbourg en particulier, voilà. Et dans l'AVC a ceci de novateur, d'avoir un certain nombre de soignants qui sont dans le travail et de réfléchir au parcours des patients et au parcours de la prévention. De ce fait, un certain nombre de responsables dans les villes s'intéressent à ce travail et on voit bien qu'il va y avoir une tendance à l'extension.
C'est un
important parce que l'AVC mode, c'est une pathologie qui touche beaucoup de monde. On va peut-être rappeler les chiffres.
Oui, alors vous disiez en introduction, un AVC toutes les 4 oui. minutes en France, c'est 140 000 nouveaux cas chaque année. Et dans 40% des cas, eh bien, on a des séquelles qui sont graves. L'AVC, c'est la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte en France.
On reste ensemble et on continue à parler AVC aujourd'hui et solutions sur Europe 1. Il est 13h18.
Europe 1.
Quand l'AVC survient, il faut intervenir de manière chirurgicale. Une entreprise française a créé le Stent River, un outil pour déboucher les artères. A tout de suite. C'est la journée mondiale de l'AVC, on en parle dans La France Bouge, on parle de prévention, des solutions et des outils qui se développent autour des accidents vasculaires cérébraux. Si vous souhaitez témoigner ou poser des questions à nos invités, écrivez-nous via Twitter, hashtag Europe 1 ou alors vous nous appelez au 3921 Raphaël.
Lorsque l'AVC a lieu, il faut dans 80% des cas procéder à ce que l'on appelle une thrombectomie, c'est-à-dire aller chercher, si je résume, si je schématise, les caillots qui obstruent les artères pour que le flux sanguin puisse de nouveau s'écouler normalement. Bonjour Eric Montalesco.
Bonjour.
Merci Raphaël. D'être avec nous. Vous êtes le vice-président de BALT, qui est une société française qui conçoit et qui produit ici, chez nous, en France, le Stent River Catch View. Il est fait, je crois, du côté de Montmorency, c'est ça, en banlieue parisienne.
Exactement, une usine implantée à Montmorency. Aussi.
Et sa première commercialisation remonte à 2008.
Alors 2005, hein, 2005, le Catch-View est créé par une équipe d'ingénieurs de la société BALT et va être développé au fur et à mesure des années avec une évolution en fonction des études cliniques, en fonction des données des médecins et en fonction de la prise en charge de la pathologie de l'AVC.
Ce Stent River, il permet d'agir vite sur un patient, c'est ça le gros intérêt ?
Alors, le principe, c'est une action mécanique, parce que vous avez deux types de traitements de l'AVC, et le professeur Zuber peut m'aider dans ce domaine, mais vous avez le traitement médical.
On parle sous son contrôle d'ailleurs.
La fibrinolyse, la thrombolyse in situ, et puis vous avez un traitement mécanique. Alors, au fur et à mesure des dernières années, notamment...
On le voit
depuis...
pour ceux qui nous suivent sur Europe 1.fr, et on voit la petite vidéo en même temps.
Vous avez donc cette petite vidéo qui schématise la capture du caillot dans l'artère, de façon à retirer ce caillot et pouvoir rétablir le flux sanguin et irriguer de nouveau le cerveau.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce procédé ?
Alors, c'est une technique non-invasive, c'est-à-dire qu'on va passer par l'artère fémorale, aller jusqu'à l'artère qui est touchée au niveau du cerveau.
Donc on fait une petite incision au niveau de l'aine ?
Une petite incision au niveau de l'aine, on va monter avec un cathéter jusque dans le cerveau. Et à partir de là, grâce au développement de ce petit panier, on va retirer le caillot sans absolument provoquer de séquelles immédiates au niveau du patient, mais avec la possibilité d'avoir des séquelles à distance, puisque, comme on le sait, un grand nombre de patients victimes d'un AVC sont porteurs de séquelles à court ou à long terme.
Maud, la thrombectomie dont nous parlons, c'est une technique qui existe depuis 4 ans, hein, en tout cas qui est pratiquée vraiment depuis 4 ans. Malheureusement, il n'y a pas assez de médecins, manifestement, notamment en France,
apparemment, voilà, il y a eu 7000 thrombectomies qui sont réalisées chaque année, mais il y aurait 15 000 patients éligibles apparemment à cette technique. Et le problème, c'est à la fois, alors il y a un problème peut-être de compétences et de formation, mais aussi un problème de réorganisation des équipes, parce que quand il faut installer une nouvelle technique au sein d'un centre hospitalier, eh bien évidemment, ça veut dire réorganiser le travail. Et du coup, ça, eh bien, ce sont des lourdeurs, ce sont des lenteurs. Et ça enlève aussi des chances à certains patients.
Eric Montalesco.
C'est très important. Le travail de l'équipe de M. Zuber auprès des enfants est primordial, mais le travail également auprès du corps médical est important parce que lorsqu'on va installer ces UNV, ces unités neurovasculaires, ce sont des unités qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui donc demandent beaucoup de moyens, pas seulement au niveau du corps médical, mais également au niveau de toute la structure qui va prendre en charge le patient. Parce que, comme vous le savez, il y a une notion de timing, il y a une notion de délai. Le plus vite on va prendre en charge le patient et l'aiguiller sur ses unités...
Donc il faut avoir le plateau technique qui suive,
exactement.
L'équipe qui soit formée.
Exactement, et puis les coordinateurs qui vont orienter le patient vers l'unité neurovasculaire.
Vous êtes en train aussi de travailler avec BALT un nouveau projet, projet qui s'appelle le Titan, je crois.
Oui, c'est un cathéter d'aspiration, c'est-à-dire qu'en fait, on va toujours dans le principe du traitement mécanique de l'AVC, on va allier le petit panier qui va permettre de capturer le caillot a tout simplement un tube, un cathéter, qui lui va être relié à une pompe et va permettre d'aspirer finalement le plus de matière possible pour éviter d'une part que le caillot se fragmente et parte dans les petites artères, mais également pour rétablir le plus rapidement possible et dans des conditions simples le flux sanguin. Et c'est vrai qu'un cathéter avec une aspiration, c'est plus simple à utiliser quand on est sur une intervention à 4 heures du matin avec un patient en extrême urgence.
Notre coach, Éric Léandre.
Bon, alors, je ne vais pas faire le médecin du tout, là. Hein. Là, je vais juste parler d'expansion. Vous parliez de la France. De toute façon, ça ne doit pas être très simple d'installer ça partout. Donc, cette nouvelle technologie a l'air prometteuse. Vous le faites aussi dans le monde entier, j'imagine. Vous ne vendez pas ça qu'en France.
Effectivement, Balt, c'est une multinationale en 2015 qui a vu une accélération de son développement à l'international. On est présent dans plus de 102 pays, dans 9 pays en direct. On a eu une unité de production aux États-Unis. Mais c'est vrai que la France reste finalement notre cœur de métier, notre cœur de communication. Il y a plus de 170 unités neurovasculaires en France. C'est un pays qui est très avant-gardiste en la matière. On essaye avec les gouvernements et les différents pays d'apporter cette solution à un maximum de patients. Mais encore une fois, la prise en charge du patient et la prise de conscience du public, finalement, reste le passage obligé.
Professeur, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Juste pour dire que la thrombectomie est vraiment une révolution et qui est vraiment un plus pour nos malades, qui s'adresse pour des malades qui ont des bonnes indications, donc un sous-groupe de patients, et que, pour reprendre la discussion autour de la difficulté à le généraliser, il y a tout un aspect de formation. Mm-hmm. Et n'importe quel médecin et n'importe quel radiologue n'est pas capable. Les neuroradiologues qui montent ces cathéters à l'intérieur des artères cérébrales ne sont pas assez nombreux en France. Et donc l'espoir, c'est d'augmenter le nombre de personnes capables de le faire pour permettre une diffusion de la technique.
Eric ?
Et à distance, via du robot aujourd'hui, c'est quelque chose de réfléchi, qui peut arriver, qui est trop complexe parce que ça va trop loin et que c'est le cerveau.
C'est
une bonne idée.
C'est peut-être l'avenir.
Ça se fait de plus en plus, en tout cas.
Mais il faudra encore, pour justement toutes ces contraintes de navigation, beaucoup, beaucoup de progrès. Et ça ne retire rien. On aura besoin des outils. Mais ensuite, qui pourra faire de la navigation, peut-être demain, au-delà de la main humaine, peut-être.
Oui, avec l'assistance, effectivement. On reste ensemble, on continue à parler AVC aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si par le jeu, on pouvait aider les personnes victimes d'AVC dans la rééducation, c'est ce que propose Genius Healthcare et son Voracity Fish. A tout de suite.
Dans la France Bouge, cet après-midi, on parle de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, avec vos invités, Raphaël Duchemin et vous également. Écrivez-nous si vous souhaitez nous en parler via Twitter, hashtag Europe 1, ou appelez-nous si vous avez des questions. Vous pouvez les poser à nos invités au 39-21, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Quand l'AVC survient, il laisse des séquelles, alors il faut en passer par la rééducation. Bonjour Pierre Foulon.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Genius Healthcare, une société spécialisée dans les dispositifs médicaux numériques, et vous avez notamment créé Voracy, et non pas Voracity, Voracy Fish, qui permet aux patients, grâce au jeu, de rééduquer les membres supérieurs. Comment ça se passe ? Vous installez sur le bras, par exemple, du patient un capteur et c'est ce capteur qui enregistre les mouvements ?
Alors, on peut installer un capteur effectivement sur le bras, sur le membre inférieur ou supérieur. On va surtout utiliser n'importe quel outil qui nous permet de capturer son mouvement. On va, au sein d'un laboratoire de recherche que je co-dirige avec le professeur Walter, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, au sein de la Pitié-Salpêtrière à Paris, on définit quels objectifs thérapeutiques on doit atteindre. Donc on va travailler sur plusieurs aspects. On va travailler sur les aspects cognitifs, sur les aspects physiques. On peut travailler sur les comportements, on peut travailler sur les émotions. Et on va définir quels objectifs à atteindre. Donc pour la rééducation du membre supérieur, on va faire bouger le bras de manière... On va éloigner le bras du corps, le ramener... faire des mouvements circulaires et autres. Tout ça, ce sont pour nous des objectifs thérapeutiques à atteindre.
Alors, la rééducation, ça peut paraître long, ça peut paraître fastidieux. Du coup, pour effectuer ces gestes qui sont répétitifs, vous avez imaginé un jeu C'est-à-dire que Absolument. Le patient va se retrouver face à un aquarium mmh. dans lequel se trouvent des poissons oui. et il va suivre le poisson. Et
il va en diriger un poisson qui est très vorace, dont la principale obsession est de manger les autres. Donc il doit
On le voit hein, si vous nous suivez sur Europe1.fr.
Il a un aspect très, très sympathique, mais il est un peu dépassé par sa boulimie. Et donc, il poursuit les autres poissons. Et pour faire avancer ce poisson ou le faire se déplacer, il faut bouger le bras de manière coordonnée avec le poisson. Et l'action de bouger le bras est l'action de rééducation.
On va au fur et à mesure avancer dans le jeu. On va nettoyer, une fois qu'il a mangé, il a trop mangé, donc on va nettoyer la vitre. Donc là, pour le coup, ce sont les mouvements circulaires.
Absolument. Et c'est comme ça un ensemble de mouvements et de rajouter une dimension ludique, et il faut faire un vrai jeu, parce qu'une séance de rééducation, on l'a fait un jour, le lendemain, toute la semaine, pendant des semaines, pendant des mois. Donc on a plusieurs scénarios de jeu, et le fait de transformer justement une séance de rééducation en un instant plutôt ludique, où on peut jouer d'ailleurs à plusieurs, on peut jouer avec des personnes qui sont distantes, on peut prolonger sa rééducation de l'institution, de l'hôpital, à la maison, parce que nous, on est complètement en ligne. Et ce sont des jeux, et j'insiste là-dessus, qui ont passé toutes les étapes de validation clinique.
Ouais, et j'ai regardé, les courbes de progression et de récupération sont assez impressionnantes. Le ludique permet d'aller plus vite dans cette récupération.
Mais le ludique fait en sorte que le patient oublie même qu'il se rééduque. Et donc, on peut lui demander...
Il y a une stimulation supplémentaire.
Oui, et on peut lui demander de faire beaucoup, beaucoup plus de choses et de manière répétitive. Et de manière prolongée. Donc, nous, on a toujours de très, très bons résultats. Donc, l'étude Voraci est encore en cours. Sur les troubles de la marche et de l'équilibre, on a de très bons résultats. Sur la suppression des chutes, on a des jeux qui suppriment les chutes chez 7 patients sur 10.
C'est un dispositif que vous allez pouvoir adapter à chaque patient.
C'est un jeu qui est paramétré par le professionnel de santé. Et c'est un jeu qui s'auto-adapte à l'utilisation du patient. C'est-à-dire que le jeu, s'il détecte un jour que le patient est très en forme, il va par exemple éloigner les cibles pour faire augmenter l'amplitude du mouvement. Si le jeu s'aperçoit que justement, au contraire, le patient est un peu plus fatigué, il va se ralentir et ramener les cibles.
Eric, notre coach.
Bon, moi, j'ai des milliers de questions sur ce jeu et combien de temps vous allez... Non, mais ça va être un peu trop long. Mais plus simplement, premièrement, je suis super content parce qu'en fait, on parle de jeu de façon positive. Donc, ça sert à plein de choses, le jeu. Et commencer par apprendre ou même à rééduquer, ça peut être vraiment génial. Deuxièmement, ça coûte de l'argent, tout ça. Et donc, comment vous faites pour le mettre en place, maintenant le distribuer? Je trouve l'idée juste géniale. Hein. Donc la gamification dans la rééducation, à mon avis, c'est une vraie solution et les courbes le prouvent. Ma vraie question, c'est où vous trouvez l'argent pour le faire, le mettre en œuvre? J'ai vu, c'est de la 3D, c'est peut-être de la réalité virtuelle ou augmentée. Enfin bon, ça coûte quand même de l'argent. Donc comment vous y arrivez et comment vous le déployez après et comment vous le vendez pour que vous puissiez en faire 10, 20, 30?
Alors ça coûte très cher. On est dans des projets de recherche qui sont financés par les investissements d'avenir et autres appels à projets nationaux. Quand on mène une étude clinique de phase 1, de phase 2, de phase 3, ou une étude clinique ou une étude médico-économique pour aller mesurer l'impact de l'innovation sur le système de santé, ça coûte cher. On est quand même assez soutenu par les financements de la recherche. On prend quand même une grosse partie de financement et de l'investissement au sein de l'entreprise. Et on commence là, on a une plateforme qui s'appelle curapi.com.
Qui est le Netflix des thérapies virtuelles.
Et une fois que tous nos jeux ont terminé leur phase d'études cliniques et de toute la partie réglementaire pour devenir un dispositif médical, on le met à disposition sur la plateforme Curapi avec un modèle économique qui est pour l'instant... plutôt léger et qui va se mettre en œuvre incessamment sous peu, et aussi un export aux États-Unis puisqu'on est en train de s'occuper de faire un dossier pour avoir le FDA approval, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser aux États-Unis.
Bon, donc tous ceux qui se plaignent de ne pas avoir de Netflix en France, là il y a un Netflix de la thérapie. C'est peut-être le moment de financer vite.
Mais oui,
avant que
oui.
ça parte aux
États-Unis.
Ça s'appelle
Curapi. Hein. Maud, je voudrais qu'on regarde cette histoire de récupération. C'est vraiment important parce que la moyenne, c'est un an pour récupérer d'un AVC, c'est ça?
Oui, au moins un an. En tout cas, c'est ce qu'on a pu me dire. Et surtout, on a peu de chances quand on a eu un AVC d'être admis dans un centre de rééducation. Hein. On a moins de 20% de chances d'être accepté. Et si on est accepté, c'est pour des durées très courtes finalement. 6 semaines en moyenne, alors qu'il faudrait entre 12 et 18 mois de rééducation. C'est pour ça que c'est très important d'apporter aussi ces solutions chez les patients directement.
Professeur Zuber.
Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur la difficulté à entrer dans les centres de rééducation, ce qui pose d'ailleurs un problème pour le patient, mais également pour le patient suivant, puisque la place n'est pas libérée dans l'unité neurovasculaire, on n'arrive pas à prendre le patient suivant. Donc c'est tout un problème d'encombrement de filière. Moi, je trouve formidable les jeux et vraiment ce que vous mettez en place est absolument majeur. Un mot pour la rééducation, pour dire qu'on sait maintenant, et ça aussi c'est une innovation très humaine mais bien démontrée, que la rééducation est d'autant plus efficace qu'elle est démarrée plus tôt, dès les premières heures. C'est pour ça que dans nos unités neurovasculaires, nous avons des kinés, des orthophonistes, et qu'il faut stimuler les gens dès le début. Alors, ils ne sont probablement pas encore en état de participer à un jeu, mais c'est déjà le début de la reprise du réveil d'un certain nombre de neurones qui permettront d'aller ensuite vers une rééducation plus complexe grâce au jeu.
On reste ensemble et on vous attend sur Europe 1. Il est 13h37.
Europe 1.
3921, Twitter, allez-y, posez vos questions à nos invités ou venez témoigner tout simplement. C'est la France qui bouge avec vous. A tout de suite. C'est la journée mondiale de l'AVC. Vous nous en parlez cet après-midi dans la France bouge, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Oui, nous sommes avec le professeur Mathieu Zuber, chef du service neuro et neurovasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, Eric Montalesco qui est vice-président de BALT et Pierre Foulon, directeur de Genius Healthcare. Notre coach aujourd'hui, c'est Eric Léandre, fondateur, cofondateur de Quant, et avec nous, c'est Maud Descamps qui nous accompagne tout au long de cette émission. On parlait, professeur, tout à l'heure des enfants. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans votre retour d'expérience, les enfants apprennent les signes aux parents. Et bien souvent, une fois qu'ils sont passés avec vos équipes, ils s'aperçoivent que leurs parents ne connaissent pas les signes avant-coureurs de l'AVC.
Tout à fait. Alors, je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte souvent là. La conversation démarre par le camion des pompiers. Et puis de là, on passe au reste de ce qu'ils ont fait. Et le fait qu'ils aient dessiné tel signe, qu'ils aient mimé telle situation, leur permet d'enseigner. Alors, on a quelques éléments. On n'a pas prouvé aujourd'hui scientifiquement, et c'est un peu long de le faire, que réellement, quelques années plus tard, les parents en savent plus grâce à ce qu'on leur aura fait aux enfants. Il faudra encore un peu de temps, mais on a quelques données qui viennent du Canada, des États-Unis, où il y a eu des études faites un peu différemment, mais qui ont montré quand même que par l'apprentissage des enfants, on améliore globalement la connaissance d'une maladie grave comme l'AVC dans la population chez les adultes.
Et on est en train de former des générations qui vont devenir
Absolument.
Adultes et qui sauront faire cette reconnaissance qui est primordiale dès l'apparition des premiers signes. Pierre Foulon, vos jeux, et notamment le Voracifiche dont nous étions en train de parler il y a quelques minutes, sont encore en test clinique. On le disait, hein, c'est très long avant que ce soit scientifiquement validé. L'horizon, c'est quoi?
Alors, c'est vrai que c'est très long de devenir un dispositif médical. Il faut faire tout un parcours d'études cliniques. Et comme on est dans la santé, on est la recherche, on est toujours dans la protection du patient. Donc, c'est long. On suit le même processus de validation clinique qu'un médicament. On va quand même beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas invasif et autres. Je pense à mon voisin. La commercialisation, elle est quand même imminente. On a sur la plateforme, on a plus de 4000 patients en rééducation. On est déjà un centre de rééducation, si vous voulez, de taille importante. Je pense que dans quelques années, on en aura beaucoup, beaucoup plus. Le système se met en place, la législation évolue. La nouvelle loi de santé fait d'ailleurs apparaître un nouvel acte qui s'appelle le télésoin, qui permet justement une rééducation, un acte de soin numérique à distance. Donc on voit bien que les choses bougent, à la fois sur le plan clinique et sur le plan d'organisation du système de santé et du parcours du patient.
Justement, mode le numérique au service de la rééducation se développe de plus en plus, hein, vous avez pu le constater
ouais,
aussi.
Tout à fait, ben, on parle des jeux vidéo thérapeutiques. Il y a une autre solution qui m'a interpellée, ça s'appelle Auton Home. C'est un programme de rééducation aussi, donc neuromotrice, qui a été développé également par un médecin français. Et l'idée, c'est que le patient est devant son ordinateur à la maison. Son médecin lui a concocté son programme de rééducation. Grâce à des capteurs avec un écran connecté, eh bien le médecin va avoir en fait un compte-rendu du suivi de toute la séance et le médecin va pouvoir adapter la séance suivante en fonction du résultat justement de ce jeu qui aura été fait par le patient.
Eric ?
Moi j'aime bien quand le médecin est toujours au centre. Avec le patient en direct, ça permet d'éviter tous les problèmes de données personnelles et pas se retrouver à avoir ce type de plateforme utilisée par des gens qui vont surtout revendre les données à votre assurance. Et vous n'aurez plus d'assurance si vous avez un AVC. Comme ça, c'est réglé. Donc, résultat, à l'inverse, je crois qu'on a absolument tout en France, que ce soit les lois, que ce soit les professeurs, que ce soit les grands groupes comme le tien, ou que ce soit ce que tu as réussi à mettre en place depuis des années, pour avoir aujourd'hui une vraie filière de ce côté-là, dans le care et le médical, qui soit puissante, forte et devant les autres. Et donc, bon, désolé, hein, ça fait encore un coup de gueule comme ça.
On
la
a
vérité,
l'habitude.
C'est qu'il faut absolument qu'on le finance maintenant ici. Il va arriver avec son FDA aux US, ils vont comprendre le film et vous allez voir qu'ils vont vouloir que ça se déplace là-bas. On peut le faire ici et maintenant.
Éric Mantel, est-ce que vous êtes d'accord? On a un procédé français. Alors, certes, il y a une partie des capitaux qui sont britanniques, hein, mais aujourd'hui, Balt est quand même en France avec cette usine dont on parlait à Montmorency, avec ce savoir-faire ici chez nous. Il faut aller vite.
Il faut aller très vite et ce que décrit Eric, c'est tout à fait vrai, puisque Balt en est un très bon exemple, hein, une société familiale de plus de 40 ans qui, à un moment donné, pour pouvoir financer cette expansion internationale et ses investissements, a dû faire appel, malheureusement, non pas à des capitaux français, mais à des capitaux anglo-saxons. C'est souvent la réalité des PME ou des sociétés moyennes françaises, si elles veulent pouvoir se développer et passer à un autre niveau. Parce que vous citiez les États-Unis, on cite les États-Unis avec la FDA, mais il faut savoir que les Chinois, aujourd'hui, sont de plus en plus en avance et probablement ont dépassé les États-Unis, aussi bien en termes d'implantation de technologie, de développement de technologie, que de régulation et législation du marché local. Donc, c'est très, très important parce que si on revient à la neuro, hein, professeur Zuber, l'origine de la neuroradiologie interventionnelle, de la neurologie, elle est française. Il ne faut pas l'oublier, les médecins viennent du monde entier se former auprès de vous, auprès de vos confrères, de tous les pays. Donc, gardons cette exclusivité et cette avancée technologique et aidons le grand public. Et le grand public doit également nous aider dans la communication et le développement de ces techniques.
J'espère qu'on l'a un peu fait ici aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les trois et bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je précise que justement, on parlait des Serious Games. Eh bien, nous y consacrerons une émission de La France Bouge. Ce sera ce jeudi entre 12h et 14h.
Il est 13h47.
Europe 1.
Allez, restez avec nous. Un petit peu de musique et juste après, est-ce que vous connaissez, tiens, les épis de faîtage, la poterie du Ménil de Bavan en fabrique depuis au moins 1842. C'est l'entreprise qui va bien.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est la poterie du Ménil de Bavan. Bonjour Dominique Quémoite.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez. C'est une très vieille maison, hein, puisqu'on trouve des traces de son existence dès 1842, peut-être même avant, qui sait, à Bavan, dans le Calvados. Il y avait là-bas une tradition de poterie.
Tout à fait. Dans la région, c'est une région d'argile. Donc il y a toujours eu des potiers, des centaines de potiers dans le Calvados. Maintenant, on en est beaucoup moins, mais il y a toujours les gisements d'argile, des belles pièces en céramique.
À l'époque, on fabriquait quoi sur place? Des tuiles et aussi les épis de faîtage. Alors ça, c'est un peu votre marque de fabrique. Qu'est-ce que c'est les épis de faîtage? C'est quelque chose qui sert à décorer les maisons?
Pas que. Au départ, c'était pour protéger un parti de bois qui ressortait de la toiture. Et donc, pour empêcher que ce parti de bois pourrissait, ils mettaient un genre de peau à fleurs par-dessus ce parti de bois. Et les potiers étant artistes, bah, ça a devenu de plus en plus travaillé pour arriver à des choses, comme je vous ai emmené, des choses très travaillées, très
comme,
colorées.
Comme nous avons ici sur, voilà, sur Europe1.fr, celle-ci par exemple surmontée d'un... Qu'est-ce que c'est?
C'est une colombe. Une colombe. Donc ça c'est, en effet, ça c'est un épi de fêtage, mais c'est un miniature, parce que vous pouvez imaginer que sur la toiture, à une hauteur de 15 mètres, on ne le verrait pas. Donc celui à côté, c'est le vrai taille des épis de fêtage.
Celui-ci qui est juste, voilà, à côté et qui représente...
Un griffon.
Un griffon. Qui choisit le modèle? Le propriétaire de la maison? Est-ce, oui, que c'est vous? Est-ce que vous avez des moules pour tout faire, pour tout imaginer?
On a plein de moules. Vraiment plein. Donc on peut tout faire. Justement, on nous demande de faire un chien, là, actuellement. Mais souvent, c'est les propriétaires, justement, qui vont choisir un thème. Il y avait des thèmes symboliques, avec des symboles politiques. Avant, ou religieux.
Comme par exemple
des gendarmes, Frédéric de Prusse, surtout en Bretagne apparemment. Et sinon religieux, donc souvent il y a une colombe qui termine l'épi de fêtage.
L'épi de fêtage est en faïence, automatiquement?
C'est une matière de la région. Donc traditionnellement, les épis de fêtage de Bavent sont en faïence, voilà, dans l'extérieur.
Pendant la guerre, cette poterie s'est arrêtée, elle s'est interrompue, mais le gisement d'argile, lui, était toujours là. Donc, ça a beaucoup changé de main, il y a eu beaucoup de reprises. Et puis, votre mère est arrivée, Martine, c'est ça?
C'est ça.
Elle arrive dans l'aventure, elle est artiste, elle a travaillé là-bas et elle reprend.
Elle reprend suite à la demande des artisans qui travaillaient dans la partie poterie. Qui ont, comme l'entreprise devait se séparer, la partie tuilerie et la partie poterie. Et c'est à ce moment-là, ma mère a pu récupérer la partie poterie pour le sauver, parce que sinon, de toute façon, ça allait être fermé. Et voilà, donc l'histoire continue et c'est ça qu'on essaie de faire perdurer.
Oui, vous faites perdurer l'histoire et vous reprenez en 1991 quand elle part à la retraite, c'est ça?
Voilà. Voilà, tout à fait. Ma mère était âgée, donc elle avait besoin de quelqu'un sur place pour diriger, essayer de faire quelque chose de cette belle entreprise. Donc, et voilà, et j'y suis toujours.
Oui, vous continuez à fabriquer, vous avez même racheté les bâtiments.
Voilà, voilà, tout à fait, qui sont magnifiques.
Eric, notre coach.
Ouais, c'est loin de mon univers, en même temps c'est fabuleux parce que ça date, mais à mon avis, j'imagine qu'il y a du numérique maintenant. Même plus, même pas, c'est toujours à la
non.
main.
Non. Toujours à l'ancienne.
Toujours à la main. Bon, oui, oui, voilà. Non, c'est toujours à la main. C'est trop compliqué. Bah, on a trop de choix. C'est vaste. La collection des épis de fêtage de Bavent, c'est vaste. Donc,
Alors, vous voyez qu'on va finir par avoir des choses qui ne sont pas numériques.
Eh oui, voilà. Ça existe encore. C'est une activité très régionale ou c'est quelque chose qui se pratique aussi à l'étranger? Est-ce qu'on vient vous commander des épis de fêtage pour partir aux États-Unis,
oui,
par exemple?
Oui, oui, oui. Justement, on a eu des commandes du Mexique. C'est assez étonnant comme pays qui sont assez forts en poterie aussi. Mais aux États-Unis, au Japon, partout en Europe. Voilà.
C'est quelque chose qui se transmet, fabriqué d'un épi de fêtage. Vous êtes 6, je crois, aujourd'hui,
oui,
dans,
oui,
la fabrique.
Voilà, donc là, actuellement, on cherche à recruter, parce qu'il y a justement une personne, Annie, qui va partir en retraite. Donc,
et ça s'apprend, ça prend du temps.
Ça s'apprend, il faut un volonté, il faut un touche artistique, il faut avoir de la patience, parce que c'est comme tout est manuel, tout est assez long, il faut attendre des séchages,
vous
des
dites
cuissons.
Ça un peu comme dans le film Ghost avec Demi Moore, hein, quand ça peut peut-être réveiller quelques passions.
Tout à fait, mais c'est passionnant, il y a la matière. Oui.
Vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant aujourd'hui.
Oui, depuis plusieurs années.
La suite, c'est quoi? Former, continuer à former pour que cette tradition continue?
Tout à fait. Communiquer sur la patrimoine régional, parce que ça fait partie du patrimoine de la Normandie, et faire perdurer en prenant des jeunes dans notre équipe et à transformer un petit peu les modèles qu'on fait actuellement pour arriver à des choses plus contemporaines aussi.
Combien de moules aujourd'hui, vous savez me le dire?
On a facilement un mille milliers de moules de toute taille.
La relève est de l'autre côté de la vitre, ici, dans le studio d'Europe 1. C'est votre,
oui,
fils qui est avec vous.
J'ai Félix qui est avec moi aujourd'hui, qui en effet a fait des petits stages dans l'entreprise.
Des petits stages dans l'entreprise, la poterie du Ménil de Bavent. Si vous deviez la qualifier, vous diriez que c'est quoi?
C'est magnifique.
Magnifique, ouais. Eric.
C'est magnifique.
Maud. Oui, juste une petite question. Vous disiez qu'il fallait se moderniser, justement. C'est une très vieille tradition. Comment on fait pour intéresser les jeunes?
C'est les formes qui peuvent changer. Donc aujourd'hui, je vous ai emmené des modèles qui sont vraiment des classiques, avec des couleurs classiques de la région. Mais après, on a des épis de fêtage modernes, avec des couleurs très, très modernes. Et ensuite, il faut juste... que les jeunes s'intéressent aux toitures, mais c'est comme tout, et c'est une histoire de choix et de budget. Et si on veut une belle toiture, il faut investir.
C'est la poterie du Ménil de Bavant. Merci d'être venu nous raconter son histoire aujourd'hui. Merci à Eric qui était notre coach, Maud et Céline. On se dit à demain.
À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1.